Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Dans ce rassemblement, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui te fait plus plaisir que tes enfants qui te font confiance. Et je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse apprendre à faire confiance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. OK. Je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé en Mésopotamie, au Moyen-Orient. Et ce jeune homme-là, c'est une tradition orale, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est comme c'est ça qui est arrivé, là. Mais ce jeune homme-là grandissait dans sa famille, puis il voyait ses parents adorer plein de statues, puis il y avait plein de statues. Puis à un moment donné, il s'est dit, si tu pourrais cette affaire-là, fait que son père n'était pas à la maison, fait qu'il a pris un marteau, puis il a cassé une des statues, puis il a mis le marteau dans la main d'une autre statue, tu sais. Fait que là, quand son père est revenu le soir, il dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il dit, cette statue-là, elle a frappé sur cette statue-là. Et son père lui a répondu, « Mais non, mon fils, voyons donc, c'est juste des statues, ils ne peuvent pas rien faire. » Puis là, ça a allumé une lumière dans la tête du jeune qui s'est dit, « Si c'est juste des statues, s'il ne m'arrive rien après avoir détruit ce Dieu-là, ben c'est juste des statues. » Puis la tradition orale raconte que ce jeune homme-là a commencé à chercher le vrai Dieu. Au lieu des dieux de ses parents, il a commencé à chercher le vrai Dieu, puis à douter de ces idoles-là, et le vrai Dieu lui aurait apparu. Et lui aurait dit de le suivre, de quitter même son pays, puis de le suivre. Dans Josué, au chapitre 24, il est dit que ce jeune homme-là existait et que ses parents servaient d'autres dieux. Et Dieu, en lui apparaissant, lui aurait dit aussi que de lui viendrait un sauveur, qu'il y aurait plusieurs, il deviendrait un peuple nombreux. Et puis Jésus a parlé aussi de lui, de ce personnage-là, et lui a dit que lorsqu'il l'a rencontré, il y a eu une grande joie, dans Jean 8, au verset 56. Une grande joie, et Jésus dit dans Jean 8, 56, « Il a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu l'as vu. » Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'il ne soit né, je suis. » Et là, je vous montre un personnage, pas un jeune homme, mais un vieillard, parce que on parle d'Abraham. Abraham qui, à l'âge de 75 ans, Dieu lui est apparu alors qu'il était encore avec sa famille. Les gens vivaient peut-être un petit peu plus vieux dans ce temps-là. Mais la légende dit que c'est dans sa jeunesse qu'il a commencé à détruire les idoles et tout ça. Mais bon, c'est pas c'est les rabbins qui racontent ça. Mais Abraham, quand Dieu lui est apparu, il a été rempli d'une grande joie quand il a vu son jour. Il savait que Jésus était pour venir et ça l'a rempli d'une grande joie parce qu'il a vu d'avance qu'il y a un sauveur qui viendrait. Il a compris que Dieu sauverait les hommes et il était joyeux aussi, car parmi tous les hommes, il était celui que Dieu avait choisi pour envoyer son Messie, au travers de sa progéniture, au travers de ses descendants. Une autre des raisons de sa joie, c'est que Jésus était le sauveur du monde et Abraham le savait que Jésus serait le sauveur du monde. Il l'avait annoncé d'avance, il avait vu son jour d'avance et il s'est réjoui. Il savait que Jésus viendrait puis sauverait les hommes, mais bien plus que ça. Il savait que lui, Dieu le sauvait ce jour-là. Abraham n'a pas été sauvé quand Jésus est venu. Abraham a été sauvé le jour où Dieu lui est apparu, puis dans les jours où il a cru qu'est-ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui a dit dans Genèse 15, 6 qu'il était devenu un juste. Abraham est devenu juste. Déclaré juste par le juge de l'univers dans Genèse 15, verset 6. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Dieu a cru qu'est-ce que Dieu lui a révélé. Puis ce que Dieu lui a révélé, c'est qu'il aurait une descendance qui serait plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et c'est écrit, il crut à Dieu et Dieu le déclara juste. Donc, Abraham. Lorsque j'ai préparé ce message-là, j'ai été frappé assez que ça m'a complètement ému de voir la valeur que la foi qu'on a, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Elle a tellement de valeur, la foi qu'on place dans notre Dieu, que Dieu, en échange de cette foi-là, nous donne la justice. Le juge de l'univers dit, tu crois-tu? Si tu crois, te déclare juste. J'ai été assez frappé que je me suis agenouillé, puis j'ai élevé Dieu, puis je me suis dit, quelle dignité que tu nous donnes, Seigneur Dieu, que de juste donner de la valeur à des simples créatures qui font le simple geste de croire qu'est-ce que tu nous as révélé. Et donc, j'espère aujourd'hui que quand je vais parler dans ce message-là, je vais être capable de rendre justice au texte de Galates 3, 6 à 9, qu'on va étudier ensemble. La joie qu'Abraham a eue, je pense que j'en ai une petite parcelle quand j'ai préparé ce message-là, de découvrir qu'est-ce que j'ai compris dans ces passages-là. Je suis en train de changer mes versets préférés de Éphésiens 2, 10 à Galates 3, 6 à 9. Je suis en train de faire mon transfert. Là. C'est capotant qu'est-ce qu'il y a. C'est trois versets. Un message avec juste trois versets, mais d'une vérité qui est étourdissante. Et j'espère que la joie qu'Abraham a vue en voyant le jour du Seigneur, bien qu'il y ait un petit peu de cette joie-là qui vous soit donnée à vous autres aussi à matin dans ce message-là. Donc, on va lire le passage qu'on va étudier aujourd'hui. J'espère que vous avez votre Bible. J'espère aussi que vous avez un carnet de notes à laquelle vous pourrez revenir pour vous y référer. Genèse chapitre 3, versets 6 à 9. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui a été compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Tu peux baisser mon micro, je vais parler plus fort s'il faut. Il n'y a pas de problème. Merci. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je vais arrêter au verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. OK. Donc, dans ces passages-là ici, Paul, il prend l'histoire d'Abraham et il veut prouver que Dieu sauve des hommes par grâce en réponse à la foi seulement. Les faux enseignants, on a vu dans mon dernier passage, enseignent un autre chemin pour être accepté par Dieu. Dans le dernier message, on a vu que Satan se déguise en ange de lumière puis il fait de ses ministres des ministres de justice, des ministres du malin. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme des brebis? Bien, ils paraissent pieux, ils paraissent spirituels, mais ils sont des loups. Jésus nous avisait de ça. Ils ont l'apparence d'être des ministres de justice parce qu'ils enseignent le bien qu'on doit faire, mais ils enseignent une justice qui vient des œuvres humaines pour être sauvés. Et je pense qu'il n'y a pas personne qui a lu Matthieu chapitre 7 puis qui n'a pas été comme un petit peu comme « c'est quoi, de quoi que ça parle? » Et je vais le lire doucement, puis sûrement que ça va vous rappeler que quand vous l'avez lu, ça vous a fait comme « oui, tabarouette ». OK. Jésus disait « méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et là, le Seigneur, pour illustrer ce qu'il vient de dire, il dit, « Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et là, la question qu'on se dit quand on lit ce passage-là, OK, ce n'est pas juste ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le royaume céleste. c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On va se dire, oui, mais c'est quoi de faire sa volonté? Je ne savais pas qu'il fallait faire quelque chose. Depuis longtemps, je vais à l'église et on me dit qu'il ne faut pas faire, il faut croire. Et là, ici, il dit que ceux qui ont fait la volonté de mon Père qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, excuse-moi. Et vous qui commettez l'iniquité, ou dans la Louis II 21, vous qui commettez le mal. » Imaginez que Dieu me dise, « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, tu fais le mal. » Puis finalement, j'ai prêché, on a fait toutes sortes de bonnes œuvres pour le Seigneur. La première affaire que le cœur humain naturel répondrait à ça, c'est de se tourner vers ce qu'il a fait. « Hé, regarde ce que j'ai fait pour toi. » Se tourner naturellement vers ce que nous avons fait pour Dieu comme une excuse de ne pas avoir fait ce que Dieu voulait. Dans le passage, ici, il nous est dit qu'on ne fait pas la volonté du Père et à cause de ça, il y a deux choses qui sont dites. On n'est pas connu et on n'a pas fait la volonté du Père. Premièrement, quand on se tourne vers la volonté du Père, c'est quoi la volonté du Père? Dans Jean 6, 40, il nous est écrit, « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle et moi, la personne, je la ressusciterai au dernier jour. » Le Père a une volonté. Il a une volonté, il veut que, quand on voit la personne de Jésus-Christ, quand on comprend qui il est et ce qu'il a fait, qu'on accepte, qu'on croit en lui. Et notre foi en lui, Jésus nous dit, ça va être suffisant pour te ressusciter au dernier jour. Il y a deux choses qui sont dites à ces gens-là dans Matthieu 7, qui ont chassé des démons, qui ont prophétisé, qui ont fait des miracles dans le nom du Seigneur. Il leur dit, premièrement, je ne vous ai pas connu. Et donc, la racine du problème dans Matthieu 7, c'est qu'ils ne sont jamais entrés en relation avec Dieu par la foi. Et ça a fait qu'ils n'ont pas été connus de Dieu et ils n'ont pas connu Dieu. Donc, le problème ici, dans le passage, ce n'est pas de ne pas avoir assez fait pour Dieu, mais c'est de ne pas avoir cru en la personne du Seigneur Jésus. Okay? Et donc, à cause de ça, le Père n'a pas rentré en communion avec eux parce qu'ils n'ont pas passé par la connaissance de Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ. Finalement, ils ne sont pas devenus un arbre pour pouvoir porter du fruit. Ça, c'est la racine du problème. C'est la racine, le problème, ce n'est pas le fruit. Ce n'est pas les mauvais fruits, c'est la racine le problème. C'est le problème, c'est qu'ils ne se sont pas enracinés dans une connaissance et une foi en Jésus-Christ. Pourtant, ce sont des gens qui sont allés à l'Église régulièrement, qui ont donné aux pauvres, qui ont fait du bien dans le monde, mais qui ne sont pas entrés dans une foi personnelle et vivante avec le Sauveur Jésus-Christ. L'évidence du problème, la racine du problème, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que le Père voulait, ils ont fait plein d'autres choses, mais ils n'ont pas fait ce que le Père voulait. Il y a quelque chose à faire. Croire, c'est de faire quelque chose. C'est de dire, je cesse de croire en moi puis j'accepte que Jésus-Christ est mon sauveur. C'est de faire quelque chose. Mais c'est la seule œuvre qui en fait ne nous donne aucun mérite parce que c'est qu'on se confie sur les mérites d'un autre. L'évidence du problème, c'est vous qui commettez le mal. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le mal. Ils n'ont pas produit la vie juste qui est produite par une relation avec Dieu. Et Jésus a dit plutôt, tout bon arbre porte du bon fruit. Donc, le fruit dans la vie d'une personne, le fruit dans ma vie, n'est pas ce qui me sauve, mais ce qui démontre que je suis sauvé. C'est que je suis en train de devenir un petit peu plus comme Jésus-Christ. Et c'est important, mais il faut que les œuvres et les fruits qu'on comporte n'aient aucune valeur méritoire. Parce qu'on est tous condamnables, premièrement. Donc, l'homme est-il sauvé par ses fruits? Et là, une personne pourrait dire, « Ah, j'ai pas de fruits, il faut que je fasse plus de fruits pour être sûr que je sois reconnu comme un disciple. » Non, non, non. Est-ce qu'un pommier a besoin des pommes pour être un pommier? Non, mais les pommes ont besoin d'avoir un pommier. Et donc, ce n'est pas le pommier qui a besoin des pommes pour être défini comme un pommier, mais c'est est-ce qu'une pomme a besoin d'un pommier pour exister? Et ça, c'est vrai. Donc, c'est la même affaire. La volonté de Dieu, qu'on se consacrer à Dieu, faire des choses pour Dieu, doivent être la conséquence de ce qu'on a cru au Seigneur Jésus. Et ça devient le fruit d'une vie chrétienne. La place du fruit dans la vie d'un croyant et d'une personne est importante. Pourquoi? Les œuvres dans vos vies, les fruits que vous portez, rendent témoignage qu'il y a une vie juste en vous et elle vient attester que vous connaissez Dieu et que vous avez été connu par lui. Mais elles n'ont aucun, et là je veux vraiment prendre le mot ici, essayer de mettre un poids sur ce mot-là, les œuvres n'ont pas de valeur d'échange pour que le juge puisse vous acquitter au jour du jugement dernier. Donc, la foi que j'ai placée en Dieu pour être connu de Dieu et connaître Dieu a une valeur d'échange. Le mot « valeur d'échange » ici est important. Il est lourd de sens. Et c'est quoi la valeur d'échange? La valeur d'échange, c'est que si je vois le Fils puis je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Et je ne viens pas en jugement, je vais être ressuscité au dernier jour. Ça a une valeur d'échange, ma foi. Et vous dites, c'est la croix. Et moi, je vous dis, non. La croix est ce qui a rendu cela possible, mais ce qui rend ça accessible à vous, c'est votre foi. Okay? Donc, pourquoi est-ce que les œuvres ont une importance cruciale? Pourquoi? Parce qu'elles glorifient Dieu ou le déshonorent. C'est la raison même pour laquelle Jésus a souvent dit dans les évangiles, ce qui a été fait en secret sera crié sur les toits. Que nous devrons tous un jour rendre compte pour nous-mêmes. Tout le monde, croyant, non-croyant, on va devoir rendre compte pour qu'est-ce qu'on va avoir fait quand on était dans notre corps. La manière qu'on va avoir honoré nos parents, nos patrons, les autorités qui sont placées sur nos vies. La manière qu'on va avoir honoré notre mari comme l'Église honore le Seigneur. La manière qu'on va avoir pris soin de notre femme comme Christ prend soin de son Église. La manière qu'on va avoir été honnête dans nos finances, la manière qu'on va avoir été fidèle dans notre pensée envers Dieu, tout va, il n'y a rien qui va être passé sous silence. La Bible nous dit que les œuvres sont importantes et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer ça sous silence. Okay? Et donc, rien de ce qui a été fait en secret ne sera pas crié sur les toits et le diagramme suivant va nous aider peut-être à le comprendre. Ici, j'ai divisé mon acétate en deux. Il y a une ligne blanche dans le centre qui sépare ceux qui ont cru de ceux qui n'ont pas cru. Et la distinction dans le monde n'est pas entre ceux qui ont bien fait et ceux qui ont mal fait, car nous avons tous mal fait. Nous avons tous péché. Le livre de Romains nous dit on a tous péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. La question est qui va porter les conséquences pénales de ce que j'ai fait? La question, c'est sur qui doit retomber la conséquence pénale du péché. Pénale veut dire punitive, veut dire comparaître devant Dieu pour être puni. Et ce qui nous sépare les uns des autres, entre ceux qui ici croient de ceux ici qui ne croient pas, c'est de ceux qui sont jugés, de ceux qui ne sont pas jugés, c'est ceux qui ici ou ceux qui nous entendent sur enregistrement ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Alors, la réponse à la question, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous sur la croix, eh bien, la question qui va être posée, c'est comment a été ta marche? Comment tu as marché dans le monde? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait du bien? Super. Tu as fait le mal? Sur qui retombe ce que tu as fait? Donc ici, comment a été ta marche? Et un jour, à la fin, on arrive tous devant notre Dieu, soit au grand trône blanc, soit au tribunal de Christ. Mais commençons par celui qui n'a pas cru qui Jésus est, sur qui retombe la conséquence pénale de ses péchés? Sur lui-même. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il comparait devant le grand trône blanc, comme c'est écrit dans Apocalypse 19, et nous comparaîtrons, et les humains comparaissent devant lui pour être jugés d'après tout ce qui est écrit sur leur vie. Tout ce qui sont leurs pensées, toutes les choses bonnes qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, tout ça, rétribution pénale individuelle. Donc, la personne, elle suit simplement le cours, elle a vécu comme elle voulait, elle paye aussi, elle prend sa responsabilité de ne pas nécessairement avoir cru. Et c'est en fonction de ses œuvres que ça se passe. Personne ne va être puni pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Chacun ici reçoit la juste rétribution de ses œuvres. Maintenant, la bonne nouvelle, et c'est incroyable quand même, c'est que de l'autre côté de la feuille, ici, ceux-là n'ont pas rien fait de plus que les autres nécessairement, mais ils ont cru quelque chose. Ils ont cru quelque chose et ils ont cru qui Jésus était. Et sur Christ retombe la conséquence pénale de leur faute. Et la question qu'il leur est posée, c'est « Comment était ta marche? » La même question qui est posée aux non-croyants, elle est aussi posée aux non-croyants, à celui qui n'a pas cru. Elle est posée aussi à celui qui a cru au Seigneur Jésus. Comment ça va? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu t'es consacré? As-tu vécu pour celui qui est mort pour ressusciter pour toi? As-tu découvert ta mission dans le monde? Etc., etc. Et il participe à la bénédiction. Ici, c'est un endroit de remise de récompense où nous sommes évalués d'après nos œuvres et nous participons à la bénédiction des enfants de Dieu, c'est-à-dire la qualité d'éternité qu'on va avoir avec Dieu. Ça ressemble, non? Vous ne trouvez pas? Il y en a juste ici, mais c'est incroyable. Celui qui a cru, il ne subit pas la conséquence pénale de son péché et va au ciel à cause de Jésus-Christ. La foi que j'ai mis ici consiste à recevoir l'œuvre de Christ par grâce. Les œuvres servent à quoi? Participer à la bénédiction. Dans Jean, au chapitre 15, ça nous parle des arbres, l'arbre qui porte du bon fruit, il l'émonde, puis il apporte encore plus de fruits, puis ce qui ne porte pas de fruits, il coupe, il jette au feu. Ça n'a pas rapport avec la perte d'être sauvé, mais la perte de participer à la bénédiction que Dieu a sur notre vie. Alors, c'est par les œuvres, c'est par notre obéissance, par la foi qu'on participe à la bénédiction. Écoutez bien ceci, tellement que les œuvres ont de l'importance. 1 Pierre 3:10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux, tu veux-tu être heureux? Tu veux-tu profiter de ta vie? Bien, il dit qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais il tourne la face contre ceux qui font le mal. Et dans ce passage-là, ils ont de l'importance, les œuvres. C'est important qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Par contre, et c'est là que le bas blesse, c'est que l'homme, il essaie toujours de penser qu'il va se présenter devant Dieu dans ses œuvres, puis dire, j'ai-tu été assez bon, fait que Dieu devrait me laisser rentrer. Mais c'est pas, les œuvres n'ont aucune, et j'ai mis le mot faire ici. L'homme, naturellement, s'il rentre au ciel, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? En fait, la question, c'est pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, c'est qu'est-ce que j'ai cru ou qu'est-ce que j'ai pas cru. Parce qu'on est tous condamnables, mais Jésus-Christ prend notre condamnation sur lui, puis il dit, hey, je paye pour toi, tu y crois-tu? Puis il nous place devant, puis il dit, ça, ça a une valeur d'échange. La foi, dans ce que Jésus est et ce qu'il a fait, ça a une valeur d'échange. Alors, c'est ça, l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est de nous remettre vraiment le compas sur la grâce de Dieu. Okay? Et donc, les Galates, ils avaient accepté, ils avaient été acceptés par Dieu parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Puis, dans le dernier message que j'ai enseigné, il leur rappelle, il dit, rappelez-vous, vous avez reçu l'Esprit. C'est-tu parce que vous avez fait les œuvres de la loi ou parce que vous avez cru avec foi à la prédication de la foi? Puis il leur rappelle, vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez cru. Puis quand il y a des miracles au milieu de vous, que Dieu répond à vos prières, est-ce que c'est parce que vous avez fait des œuvres ou bien non, c'est parce que Dieu il vous a accordé son Esprit pour répondre à vos prières et agir puissamment? Fait qu'il disait, rappelez-vous, là, revenez à votre témoignage. Puis là, il va passer de leur témoignage au témoignage d'Abraham. Et il va leur parler d'Abraham. Abraham a été sauvé par la foi et non par les œuvres. C'est important. Ceux qui étaient les faux prophètes, qui se déguisaient en ministres de justice pour les Galates, c'était des judaïseurs. Et ces gens-là croyaient que si on est juif, puis on est né juif, puis qu'on se fait circoncire, on va être sauvé avec Abraham, le croyant. Alors, il y avait cette idée-là, tu as juste besoin d'être juif, puis si tu n'es pas juif, fais-toi juif. Comment est-ce qu'une personne non-juive se faisait juif? Elle se faisait circoncire. Et elle participait à l'alliance d'Abraham par ce fait-là. Et ces judaïseurs ne comprenaient pas Genèse chapitre 12 puis Genèse chapitre 17. Ils pensaient que d'être béni avec Abraham, il fallait être de nationalité juive ou encore se faire juif au travers de la circoncision. Il échouait à différencier que Dieu avait choisi Abraham puis avait choisi ceux qui naîtraient de lui pour être une nation prêtre pour les autres nations. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais dans Exode 19:15, c'est écrit « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ça, c'était à la sortie de la mer Rouge. Dieu avait dit à Israël, « Vous serez la nation prêtre pour les autres nations. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire qu'il était automatiquement sauvé parce que tout d'un coup, Dieu leur disait ça? Non. Il disait, « Si vous obéissez à ma voix, voici ce que je vais faire au travers de vous. » Ça ne parlait pas d'être sauvé. Ça parlait d'être utilisé s'il venait à lui. Hein? Et que au travers de eux, il y aurait un Messie qui viendrait aussi, puis que le salut se ferait connaître, que les gens, comment être sauvés, ça se ferait connaître par le peuple juif. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas de ça du tout. Pourquoi? Ils ne se sont pas tenus dans la parole et se sont éloignés. Et maintenant, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Donc, Abraham a reçu la grâce et pour pouvoir participer à la bénédiction, il a fallu qu'il se fasse circoncire avec son fils. Et donc, c'est par les œuvres qu'on participe à la bénédiction, c'est par notre obéissance de foi qu'on participe à la bénédiction, mais c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Vous lirez Romains 4, au verset 2 à 11, Paul y fait la preuve qu'Abraham s'est fait promettre d'être sauvé, il s'est fait déclarer juste avant de se faire circoncire. Et la preuve qu'il est en train de dire, c'est, dans Romains, il est en train de dire, ben, s'il n'a pas été circoncis et qu'il avait la vie éternelle, ben, pourquoi est-ce que les autres faudraient qu'ils se fassent circoncis ou qu'ils fassent quelque chose pour obtenir la vie éternelle? OK, on regarde le premier verset. Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est mon verset. Ça, c'est devenu mon verset préféré. Là. Le mot pour imputer à justice. OK. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le mot imputé, c'est papyri. Et c'est comme un papier, se faire un papier, c'est fait faire un papier. OK. Ça voulait dire mettre au compte d'un autre. La foi qu'Abraham a eue a été placée dans son compte comme justice. C'est quelque chose, là. Wist, un expert du grec, dit, une autre manière de le dire serait de dire, Abraham a cru Dieu et son acte de foi fut placé comme un dépôt pour lui et imputé à sa valeur et il fut mis dans son compte la justice. Ça a tellement de valeur ce qu'un homme ou une femme croit que cela a la valeur de la justice donnée par Christ. Attention, c'est pas que ça a tellement de valeur que ça nous affranchit. Attention, ça n'a aucune valeur méritoire dans le sens que c'est pas « Hey, as-tu vu Jean-Sébastien, il croit tellement que ça efface ses péchés. » C'est pas ça. Le texte dit que ça a la valeur que Dieu mette la justice, mais quelle justice dans mon compte? Regardez bien ça. Abraham s'est placé dans une position où le Dieu juste pouvait lui offrir le salut sur une base que le juge était satisfait. La seule façon que le juge de l'univers soit satisfait dans sa justice par rapport à tous les péchés qu'on a faits, c'est quoi? C'est quoi qui satisfait le juge de l'univers? Oui, mais c'est quoi qui fait que le juge dit je suis satisfait? La question a été traitée avec justice. Les péchés que Jean-Sébastien fait ont été traités avec justice. La mort de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'Abraham il a vu d'avance et il s'est réjoui. Parce que s'il était déclaré juste par Dieu, la seule façon que Dieu pouvait le déclarer juste, c'était que le juge soit satisfait du côté pénal. Et parce que Dieu avait prévu d'envoyer son fils Jésus-Christ mourir, il pouvait déjà dire à Abraham, « Tu sais, Abraham, tu es juste. » Par contre, Abraham devra aller au paradis qu'on appelle le Saint d'Abraham et il ne pourra pas aller dans la présence de Dieu parce qu'il a encore ses péchés jusqu'à temps que Jésus-Christ enlève efficacement ses péchés puis qu'il puisse aller dans la présence de Dieu. Par contre, c'est quoi qui a la valeur, assez de valeur que Dieu dit, « Je prends la justice qui est à un autre, Jésus-Christ, puis je te la donne à toi. » Ce qui a assez de valeur, là, il dit qu'il a placé dans notre compte la valeur même de notre foi, c'est-à-dire la justice. Ça veut dire que la foi que vous placez en qui, en ce que Dieu a révélé et ce qu'il a fait pour vous, a tellement de valeur pour Dieu qu'il prend la justice de Christ et il dit, ça a tellement de valeur que je te la donne. Hey, c'est incroyable. En tout cas, je sais pas que je peux faire des pirouettes pour... je pourrais juste prendre ce verset-là, puis... J'espère que... Tu sais, je vois pas dans vos petites têtes, dans vos grandes têtes, là, vous avez des petites têtes, là. Genre, je sais pas s'il y a une étincelle qui est allumée, je sais pas si vos yeux ont commencé à briller un petit peu, mais moi, ça m'a fait casser les deux jambes. Je me suis mis à genoux quand j'ai découvert ça hier. Je vais vous l'orler, OK? Abraham crut à Dieu et son acte de foi fut placé comme un dépôt pour lui et imputé à sa valeur et il fut mis dans son compte la justice. La justice, c'est ce qui est correct. Ce qui répond aux normes de l'usage, des coutumes ou du droit. C'est comme correct, conforme. Ton dossier criminel, effacé. Je veux dire, parfait, sans défaut. Correct dans la morale, correct dans la coutume ou dans le droit. Mais quand on vient de la part de Dieu, quand c'est le Dieu, le juge de l'univers, celui qui va, que toutes les choses cachées vont sortir, que rien va être gardé sous silence. Lui qui voit les motifs, même quand tu fais le bien et que le mal qui est attaché après ton intention, lui, il voit puis il dit « correct » selon le droit. « Correct » par rapport à la justice divine. C'est plus que « non coupable », c'est « juste ». Ce n'est pas un énoncé négatif qui dit « non coupable ». C'est plus que ça. C'est en plus « sans défaut moral ». Je veux dire, c'est incroyable là, qu'est-ce que le juge de l'univers fait lorsqu'il fait cette déclaration-là. Il fait une déclaration négative de non-culpabilité parce qu'il y a un acte judiciaire de pardon, c'est-à-dire qu'il a pris nos péchés, il les a enlevés de sur nous. Et parce qu'il peut faire ça, il peut aussi faire la déclaration suivante, non coupable, mais plus que ça, juste. Non seulement innocent, non seulement non condamné, mais juste face à la loi pour aujourd'hui et pour l'éternité. C'est incroyable. Abraham l'a fait, il ne s'était même pas encore fait circoncire. La loi de Moïse n'était pas encore venue. Et Dieu a dit, Abraham, tu crois dans mes promesses, je te déclare juste. Parce que Dieu avait en vue le jour de Christ, qu'il paierait pour lui, et donc il a pu le déclarer juste. Wow. Votre foi a tellement de valeur que Dieu dépose la valeur de votre foi en vous donnant la justice de son Fils. Elle a est tellement précieuse, la foi que vous placez en Dieu, que Dieu place, parce qu'il a vu ça, une valeur d'échange. Il dit, à quoi je comparerais, qu'est-ce qui vaut si cher? La mort sacrificielle de Jésus-Christ. Ça n'enlève rien à la croix. La croix est merveilleuse, parce que c'est un Dieu qui meurt pour moi. Lui qui n'a rien fait de mal, il meurt pour moi. Ça n'enlève rien à la croix. mais ça, je trouve que ça donne la dignité à notre foi. Ça donne la dignité. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et ici, ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas, hey, à cette heure que je viens de vous dire ça, là, reconnaissez-le. Ce n'est pas un impératif. C'est vous percevez, comme s'il était devant une scène, un paysage, puis qu'il disait, percevez avec moi. Percevez avec moi qu'on voit la même affaire. Que Abraham, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Puis ici, c'est pas, c'est-à-dire ceux qui ont la même foi ou la foi du même type, et on pourrait dire c'est ceux qui sont de la foi d'Abraham. C'est les gens de foi. Dans l'original, c'est les gens de foi, okay, qui sont fils d'Abraham. Mais pas. C'est dur à déraciner ça, mais des fois, quand on demande à une personne, as-tu la foi? Ils vont dire oui. Puis après ça, tu dis, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, ils vont commencer à dire qu'ils vont à l'église, qu'ils prient, qu'ils donnent, qu'ils font des choses pour Dieu. Mais la vraie foi qui sauve, c'est pas la foi que je place dans ce que je fais pour Dieu, mais dans ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et donc, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Il y a des gens qui croient en Dieu parce qu'ils disent ça se peut pas que le monde soit arrivé là, ici, comme ça. Ils ont une foi intellectuelle, ils croient, ils adhèrent à certains principes, mais ils n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour recevoir le pardon de leurs péchés. Ce qu'à chaque dimanche, on offre à faire à la fin du rassemblement, où est-ce qu'on peut se prier puis transférer notre confiance en Dieu. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils ont la foi en Dieu parce qu'ils prient avant les repas, puis parce que quand ils ont des choses difficiles, ils se tournent vers Dieu. T'sais. Mais ça, c'est une foi temporelle pour les besoins de cette vie. Mais tu sais, je peux prier pour avant de partir en voyage, je vais être protégé pour ce voyage-là, mais je ne suis peut-être pas protégé pour le grand voyage. Et donc, ceux qui ont la foi d'Abraham, son fils d'Abraham. Puis ici, c'est pas fils dans le sens biologique, tu sais. Mais tu sais, oubliez pas, les judaïsants disaient, on est fils d'Abraham, on est né d'Abraham, donc on est sauvé. Puis là, ils disaient, hey, les fils d'Abraham, c'est ceux qui sont tel père, tel fils. Ils parlent d'une qualité éthique. Tu sais, quand tu vois la fille ou le fils d'une personne, puis tu dis, boy, tel père, tel fils. Mais c'est ça ici. Et là, il est en train de dire, hey, attention. C'est ceux qui manifestent le même genre de foi qui sont sauvés, qui sont les fils et qui participent à la bénédiction du salut qu'Abraham a reçu. Les judaïsards, ils pensaient justement qu'ils étaient fils d'Abraham et qu'ils étaient sauvés. Aussi, c'est quand même assez, ça m'a un petit peu toujours titillé. Je me disais, comment une personne dans l'Ancien Testament peut être déclarée juste si Jésus n'est pas encore venu? Puis je me disais, comment est-ce qu'Abraham peut avoir cru que Jésus était mort, ressuscité, puis tu sais, enseveli, ressuscité le troisième jour pour être sauvé? Parce que nous, c'est ça qu'on doit croire. Là, je me disais, comment quelqu'un peut croire avant que ça l'arrive? Mais Dieu, ce qu'il a fait, dans le fond, c'est que il y a le contenu de ce qu'il avait à croire était différent. Pour Abraham, qu'il avait besoin de croire, c'est de croire à la promesse que Dieu lui avait faite dans Genèse 15:6. Puis juste sur le fait qu'il avait cru, ça, il a reçu la justice. Plus on a avancé dans le temps, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, quand le peuple d'Israël existait, il fallait croire que Dieu était le Dieu d'Israël. Dans Romains 1, il nous est dit que, en présence de la création, ce que l'homme doit croire, c'est qu'il y a un Créateur, puis il doit vouloir lui rendre hommage. Plus qu'on avance, Romains 2, on s'aperçoit que l'homme a reçu une conscience, puis il sait qu'il devrait glorifier ce Dieu-là. Puis normalement, sa conscience devrait dire, même si j'essaie d'être bon, il y a comme, hey Seigneur, sois apaisé envers moi. T'sais, la conscience devrait nous dire que même si on essaie d'être des bonnes personnes, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à glorifier ce Dieu-là. On a besoin de pardon. Puis dans Romains chapitre 3, on s'aperçoit que l'homme en présence de la révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi, qu'il est mort sur la croix pour être puni pour tes péchés, là, à cause que la révélation augmente, la personne est encore plus responsable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 2017, l'ère de la grâce 2017, on est placé à croire. Et même quand Jésus, il prêchait, il disait quoi? Il disait, celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, Jésus disait. il ne viendra pas en jugement. Il ne fallait pas croire qu'il était pour mourir, ressusciter, puis nous préparer une place au ciel. Crime, les gars, les filles étaient là, puis ils ne savaient pas encore tout ça. Mais ce qu'ils savaient, c'est que Jésus était le sauveur envoyé par Dieu, puis qu'il était envoyé par Dieu. C'est tout. Jésus disait, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il fallait juste qu'il croie qu'il était sauveur envoyé dans le monde. Abraham, ben lui, il a cru qu'il y aurait un sauveur qui viendrait. C'était assez. Mais aujourd'hui, vous et moi, on est placés devant un contenu de ce qu'il y a à croire qui est beaucoup plus important. Dieu veut qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a porté la punition de nos péchés, qu'il est mort, enseveli, et le troisième jour ressuscité, puis il est parti nous préparer une place, puis on va aller le rejoindre. Et que lui a payé, donc il y a une transaction qui s'est faite, ma culpabilité sur lui, sa sainteté sur moi. Et c'est pour ça qu'il peut nous déclarer juste. Mais ce qui est précieux pour Dieu, c'est peu importe dans quel âge, si Dieu il se tourne vers toi et il dit, « Hey, Georges, tu y crois-tu? Tu y crois-tu que j'ai créé le monde? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ il nous dit, est-ce que tu crois que je suis mort sur la croix pour toi? » Puis on est placé devant ça. Puis elle a tellement de prix que Pierre, dans deux places dans les épées de Pierre, il va dire, vous avez une foi du même prix que la nôtre. Il va parler d'une foi qui a un grand prix. Elle a tellement un grand prix que Dieu prend ce qui est à Christ et il le met à notre compte parce qu'elle a de la valeur. Verset 8. L'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Pour les judaïseurs, pour que toutes les nations soient bénies, je l'ai dit quelques fois durant mon message, elles devaient se faire circoncire et se faire juifs. Et ici, dans le texte écrit, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. Il a annoncé la bonne nouvelle à Abraham. C'est pour ça que Jésus a dit, il s'est réjoui quand il a vu mon jour. Le texte ne dit pas, il justifierait les païens par la foi, mais il justifie les païens par la foi. Aussi, une affaire, c'est qu'en tant que chrétien, des fois, on n'a pas compris que quand on lit notre Ancien Testament, les gens dans l'Ancien Testament n'étaient pas sauvés par les œuvres. Ça a toujours été ça. Dans le temps des sacrifices de Moïse, ça a toujours été ça. Il fallait croire Dieu, et sur la base de notre foi, on était sauvés et on n'allait pas au grand trône blanc. Okay? Ça a toujours été ça. Mais souvent, on dit, la loi de Moïse, on était sauvés par nos œuvres. Non, jamais. On est sauvés, puis on va aller au ciel avec Dieu parce qu'il y en a un sur qui est retombé les conséquences pénales de notre péché. Et c'était avant la croix, Christ. Ça sera toujours Christ. Sauf qu'une personne qui mourait dans l'Ancien Testament avait cru, mais son péché n'était pas enlevé. Donc, on va dire que ça, c'était la croix ici. Elle était dans le séjour des morts jusqu'à temps que vienne la croix. Et quand est venue la croix, Jésus-Christ, il a pris les péchés de ceux qui étaient au séjour des morts, Abraham, puis tous ceux qui avaient cru dans l'Ancien Testament, sont tombés sur Christ. On va dire que ça ici, ça représente la croix. Et maintenant, ceux qui meurent, dans Thessaloniciens, c'est écrit « Heureux ceux qui meurent, car ils meurent dans le Seigneur ». Et ils sont avec le Seigneur dès qu'il meurt. Pourquoi on ne va plus au séjour des morts? Rien. Pourquoi? Bien, parce que notre péché a été enlevé. Donc, cette croix-là, elle était aussi efficace pour ceux qui avaient péché dans l'Ancien Testament et qui méritaient une conséquence pénale que ceux qui sont nés dans l'ère de l'Église, qui sont nés après que ça ait été fait, parce que Jésus-Christ a payé pour eux dans le passé. Et sa mort est tellement immesurable. La dette, le prix qu'il a payé est tellement incommensurable, ou je ne sais pas comment le dire, là, sans fin, que ça l'absorbe toute la dette de tous les hommes, dans tous les âges, dans tous les lieux. Et le mot, c'est pas « il justifierait les », mais c'est « il justifie ceux qui ont la foi en Dieu ». De sorte, verset 9, que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ici, la bénédiction, c'est quoi? Bien, c'est sûr que c'est la bénédiction d'être sauvé, de mourir puis de savoir qu'on va au ciel avec Dieu. Ceux qui croient partagent la même bénédiction qu'Abraham. Donc, c'est basé sur quoi? sur leur foi et non sur leur vie juste. Si vous voulez développer le sujet, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à étudier, c'est Romains 1 au verset 17, puis Jean 15. Pour votre lecture à la maison, dans Jean 15, il parle beaucoup de partager la bénédiction de Jésus. Puis dans Romains 1, 17, le passage nous dit que c'est par la foi que la justice de Dieu nous est révélée, et c'est pour la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je crois à l'Écriture, nécessairement, je vais arriver devant la justice qui a été manifestée à la croix. Puis la foi va m'être révélée, la justice va m'être donnée parce que j'ai cru. Ensuite, la justice divine, ça veut dire qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est correct, va m'être révélée pour la foi. Par la foi, je deviens juste. Par la révélation, ma foi augmente, puis je marche de plus en plus dans cette justice-là. Un mauvais arbre produit du mauvais fruit, un bon arbre produit du bon fruit, on a vu dans le passage aujourd'hui. Je deviens juste parce que j'ai cru à ce que Dieu m'a dit, c'est déposé dans mon compte, et je marche dans la justice par une obéissance de foi. Romains 1, 17, c'est ce que le passage nous dit. On va fermer les yeux ensemble. J'aimerais ça qu'on fasse un petit voyage vers l'intérieur, simplement, qu'on regarde où ce qu'on en est avec Dieu. Vous nous écoutez sur enregistrement, vous êtes ici, et vous êtes placé devant l'Évangile de Jésus-Christ. Cet Évangile-là ne nous demande pas qu'est-ce que tu as fait pour nous garantir d'être sauvés, mais elle nous pose la question, qu'est-ce que tu as cru? Si ce qu'on a fait nous fait mériter le jugement, ce qu'on a cru nous fait avoir la vie éternelle, nos jugements, notre jugement, la question c'est, le jugement, il va sur Christ ou sur toi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu crois qui est Jésus? Il est Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu crois ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix pour toi, pour être puni à ta place, pour que tu ne sois pas puni au jour de ta mort. La question que Dieu te pose, c'est, tu veux-tu mettre ta confiance? Pas juste accepter intellectuellement ce qu'il a fait, mais de dire, OK, c'est ça qu'il a fait, je place ma confiance en lui. Si tu places ta confiance aujourd'hui, comment ça se fait ça? Bien, il faut transférer notre confiance. Si jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que parce que tu avais été une bonne personne ou tu avais essayé de faire ton mieux ou tu pensais qu'il fallait qu'on fasse son mieux pour être sauvé, c'est que tu plaçais ta confiance dans tes mérites. Comment est-ce qu'on transfère notre confiance en Jésus-Christ? Bien, on reconnaît qu'on plaçait notre confiance dans nos mérites. Et on décide de se tourner vers Jésus-Christ et dire, OK, Seigneur, je crois qui tu es, puis j'accepte la transaction qui a eu lieu pour moi. C'est comme si tu allais à la banque et on te disait, est-ce que vous acceptez le transfert signé en bas? Aujourd'hui, t'acceptes-tu que le transfert se passe? Jésus a déjà payé pour toi, ta dette est déjà payée, mais il te demande, est-ce que tu acceptes qu'il a payé pour toi? Et c'est là qu'il faut accepter de transférer le compte de banque. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu crois qui il est, ce qu'il a fait, le transfert va se faire aujourd'hui. Et tu vas recevoir et le pardon de tes péchés et la justice divine. Dieu va dire, sans tâche, irréprochable, ne viendra jamais en jugement. Simplement, pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, d'œuvre extraordinaire, mais parce que tu as fait l'œuvre, la seule œuvre qui est la volonté du Père, c'est de croire en Jésus, en celui qui l'a envoyé. Si tu veux faire cette prière aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, que les frères et sœurs sont en prière, répète cette prière avec moi. Dieu va regarder plus à ton cœur qu'aux paroles de ta bouche. On va faire cette prière à voix haute. C'est pas parce qu'on l'a fait plusieurs fois. On l'a fait une fois, Dieu n'est pas sourd. On l'a fait pour geste de courtoisie, pour t'accompagner. Répétez cette prière avec moi. Et ceux qui croient à ce qu'ils disent et que c'est la première fois qu'ils vont prier cela, la Bible dit qu'ils vont recevoir la vie éternelle à cause de leur foi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je mérite d'être jugé pour mes péchés. J'ai entendu que tu m'aimes tellement que tu es mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés. J'accepte ce transfert. Merci de venir dans mon cœur et de devenir mon sauveur. Amen. Je crois que tu es ressuscité. Excuse, on va juste dire, je crois que tu es ressuscité et que tu me prépares une place. Amen. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a fait cette prière-là pour la première fois, soit sur Internet, soit sur enregistrement, soit ici dans ce lieu, tu as vraiment cru à ce que tu as prié. Ce n'est pas une parole magique que tu peux te répéter. C'est que tu as cru l'Évangile. Ça a tellement de valeur, Jésus dit, qu'il y a des anges dans le ciel qui viennent de faire un party pour toi. Je veux dire, les anges dans le ciel, ils se grattent la tête puis ils se disent « aïe, 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 après un seul péché, les anges ils sont devenus des démons puis on ne peut plus en revenir, Satan ne peut plus en revenir. » Puis l'homme, lui, après de multiples péchés, il rentre au ciel. Comme ça, il rentre, il est accepté par le juge de l'univers et les anges sont là puis ils contemplent la grâce de Dieu puis ils font la fête à chaque fois qu'un homme, une femme, accepte le pardon de ses péchés. Ça a tellement de valeur que ça fait bouger le ciel. Et je prie que si tu as fait cette prière-là pour la première fois, que tu sentes cette joie-là, la joie que tes péchés sont pardonnés, la joie que ton casier judiciaire est lavé, la joie que tu n'es pas simplement appelé non condamné, mais tu es appelé juste, sans tâche, sans reproche, et dans une excellence morale, celle de Jésus-Christ devant Dieu. Pour chacun d'entre nous aussi qui avions déjà accepté le Seigneur Jésus, les fruits sont importants. Les fruits sont importants, mais ce qui compte, c'est votre attachement à la vigne, c'est votre attachement à l'arbre fruitier. Et donc, un jour, on va tous rendre compte pour ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a un grand appel sur notre vie. D'appartenir à Jésus-Christ et de le glorifier. Donc, je prie que vous réalisiez qu'à chaque fois que vous placez votre foi en Dieu, ça a de la valeur. Ça a tellement de la valeur pour lui. La Bible dit dans Hébreux 11:6 qu'il n'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors Dieu, il vous place dans des situations présentement où ce que vous avez besoin de croire en lui, de dépendre de lui, de prendre sa parole puis de commencer à la croire, puis la mettre au sérieux, puis dire je veux voir qu'est-ce que Dieu va faire. Je veux. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu votre foi. Elle a un grand prix. Participez avec lui à la bénédiction. Amen. On va finir avec un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.